Salut, c'est Odile.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr. Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral, aujourd'hui donc en direct de Fréquence Mistral, antenne de Digne. Odile avec vous pour recevoir mes invités. Donc bienvenue à tous si vous nous rejoignez pour ce magazine à la bonne heure, ce vendredi 5 décembre, où on va parler de circuits courts et notamment d'une ouverture d'un magasin de producteurs très prochainement sur Digne-les-Bains. Et pour cela, donc, et puis aussi d'une cagnotte participative, pour cela, donc, j'ai le plaisir d'accueillir Julie Mazan, associée donc, pour cette opération. Elle est éleveuse de poules pondeuses, autrement dit avicultrice, un mot que je découvre et que, apparemment, beaucoup de personnes ne connaissent pas. Et Camille Mourgue, maraîchère à Digne au plan de Gobert. Bienvenue à toutes les deux. Merci d'être venues dans notre studio pour nous parler de ce beau projet qui avance bien. Alors, qui se présente en premier ?
Eh bien, moi, donc je suis... Merci de nous accueillir, tout d'abord. Je suis Julie Mazan, donc oui, éleveuse de poules pondeuses sur Mirabeau. Je pratique déjà les circuits courts sur le marché de Digne-les-Bains. Et la clientèle du marché de Digne-les-Bains est un public déjà très, très fidèle. Je pense que dans les Alpes de Haute-Provence, nous avons... Des personnes qui sont très avisées au niveau circuit court. Je ne sais pas ce que tu en penses, Camille.
Le département fonctionne bien au niveau des circuits courts.
Tout à fait.
Quoi. Voilà, il y a une vraie demande aussi des citoyens.
Il y a le bio, mais il y a aussi le local. Je pense qu'ils sont très concernés par les petites fermes autour de Digne-les-Bains. Ils veulent nous soutenir. Ils ont vraiment envie d'avoir accès à ces produits-là qui, pour eux, sont plus sains. Et ouais, voilà.
Et donc Camille Mourgue, maraîchère à Digne au plan de Gobert. On reviendra aussi pour nous expliquer mieux votre métier, Julie. Camille, donc maraîchère, comment on devient maraîchère et qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Bonjour. Alors du coup, avec mon compagnon Jean, nous sommes maraîchers au plan de Gobert depuis maintenant bientôt la 9e saison qui va arriver. Et du coup, nous cultivons une trentaine de variétés de légumes pour toute la saison. Nous couvrons toute la saison sur un peu moins de 2 hectares. Comment on en vient à être maraîcher ? Alors déjà, en plus, on est maraîcher en agriculture biologique. Donc déjà, je pense que c'est aussi une conviction de vouloir faire pousser des beaux produits, des bons produits dans une région avec de beaux terrains comme les alentours de Digne-les-Bains. On a beaucoup de chance au plan de Gobert parce que ce sont vraiment de très bonnes terres. Et donc on en vient là avec cette envie de pouvoir cultiver une petite partie de l'alimentation d'une petite partie de la population dinoise. Comme disait Julie, nous sommes aussi sur les deux marchés de Digne-les-Bains, le samedi et le mercredi. Et nous avons effectivement beaucoup de chance parce que nous avons des clients très fidèles et qui sont amateurs de circuits courts et de produits locaux. Après, pour parler un peu plus de ma ferme, je pense qu'on en reviendra un petit peu, comme pour Julie. Du coup, on a une belle ferme au plan de Gobert. Tous nos terrains sont regroupés autour de notre habitation. Et ça nous permet de cultiver assez facilement. On est dans un bel environnement. Et voilà, et c'est ça. C'est un travail qui rend bien de pouvoir travailler la terre dans un si bel endroit.
Et on sait qu'il n'y a pas beaucoup de vacances, hein, c'est ça pour ce
absolument
type de travail.
Absolument zéro vacances. Alors oui, on a une petite trêve hivernale, nous. Hein, maintenant, depuis quelques années, on s'octroie un petit mois sans faire le marché. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, mais ça veut dire qu'on peut quand même se reposer et qu'on peut, un peu peut-être partir de la ferme, un petit peu.
Donc c'est une vraie motivation déjà pour vous, pour votre consommation personnelle, j'imagine.
Oui, complètement, on s'en prive pas.
Hein. Ouais.
Oui, déjà, on a la chance de pouvoir manger des légumes qu'on trouve bons, hein, c'est pas pour être chauvin ou se vanter, mais voilà. Et puis pouvoir après les partager. Alors ce qui est sympathique, c'est justement de les manger, c'est de savoir les cuisiner, de pouvoir ensuite en parler à nos clients. Ça, c'est assez sympa, et de pouvoir faire des échanges de recettes, de voir de retour si de telle manière ça a plu aux personnes ou non. Voilà, ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. C'est souvent moi qui fais les marchés et j'aime beaucoup faire ça. J'aime beaucoup cet échange avec, avec nos clients.
C'est vrai que c'est sympa quand on achète des légumes dont on n'a pas l'habitude, avec lesquels on n'a pas l'habitude de cuisiner, d'avoir les recettes, les conseils maraîchers. C'est vraiment sympa, ça, oui.
Tout à fait, oui, c'est plus sympa. Et puis même après, les clients nous apprennent des choses, surtout aussi.
Aussi,
hein, faut vraiment le dire. Oui. C'est vraiment un échange.
Est-ce qu'il y a des légumes que les personnes redécouvrent?
Oh, là, on en est... j'avoue, vraiment, pour continuer, j'insiste sur cette population de dignes et alentours, c'est que c'est beaucoup de gens, déjà, qui sont avisés à aller cuisiner des légumes qu'on appelle oubliés. Et du coup, c'est vrai qu'on n'en fait plus tellement découvrir. Hein. Oui, on a eu, il y a quelques années, la grosse découverte de la courge spaghetti, qui est une courge qui va se cuire, après on gratte la chair et qui va se déliter vraiment comme des nouilles, et qu'on va cuisiner dans une sauce ou en gratin, et ça, ça a eu la cote. À un moment, c'est vraiment quelque chose que les gens ont redécouvert. Mais sinon, vraiment, tout ce qui est pané et autre chose, les gens, ils connaissent quand même beaucoup ici. Hein. J'avoue que je leur apprends pas grand-chose. Hein.
Alors, merci, Camille Mourgue, pour ces détails. Julie Mazan, alors, comment on arrive à être éleveuse de poules pondeuses? C'est aussi... Et quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer dans ce métier qui est surprenant?
Et ben, comment on arrive éleveuse de poules pondeuses? Ben, j'ai déjà mon papa et ma maman qui étaient éleveurs de poules pondeuses. Moi, j'étais plutôt voyageuse. Et après ce premier confinement du Covid, le retour à la terre m'a appelée. Donc voilà, je suis rentrée de Thaïlande en France. Et les animaux ont toujours été quand même quelque chose de fort pour moi. Mais là, je me suis installée, donc en 2022. Et je ne pensais pas reprendre la ferme, mais en fait, le contact avec la clientèle m'a toujours plu. J'ai toujours fait les marchés, que ce soit avec mon père, ma mère ou moi, comme travail quand j'étais plus jeune. Mais voilà, l'installation, c'était circuit court. Mon père avait beaucoup plus de poules. Moi, j'ai préféré réduire et vraiment, voilà... vendre sur les marchés principalement et avoir ce contact avec la clientèle qui, comme dit Camille, est vraiment important, je pense, pour faire comprendre aux gens ce que c'est aussi qu'élever des bêtes ou cultiver des légumes, que c'est pas tout beau tout rose, mais voilà, leur expliquer que parfois on n'a pas des œufs assez gros, c'est le cycle aussi de la nature, j'ai des poulettes qui arrivent... en même temps, j'ai des vieilles poules, donc à un moment, j'ai tout ce qu'il faut en œufs. Mais comme je suis une petite ferme, à un moment donné, je n'ai plus que des jeunes poulettes à la maison. J'ai vendu toutes les autres aux particuliers, donc plus que des petits œufs. Et ça, sur les marchés, en circuit court, je trouve l'avantage, c'est de pouvoir expliquer aux gens pourquoi ils ont ce produit devant eux, pourquoi il y a ce goût, comment le cuisiner effectivement aussi.
Est-ce qu'il y a des différentes périodes? Est-ce qu'il y a des périodes où il n'y a pas d'œufs? Comment ça se passe?
On essaie qu'il y ait toujours des œufs. Il y a des périodes où il y a moins d'œufs, notamment l'hiver, effectivement, puisque la poule, c'est vrai que naturellement, pond beaucoup moins l'hiver. Là, à ce moment-là, moi, j'ai ces deux lots, donc les vieilles poules qui pondent moins, mais des magnifiques œufs, et les jeunes qui se mettent à pondre. Donc, je pallie un petit peu à ça avec ce turnover, on va dire. Et voilà, il n'y a pas tellement de saisonnalité pour moi. Il n'y a pas tellement de vacances. Il faut des remplaçants, on va dire.
Et alors, pour moi, personnellement, combien de temps se gardent des œufs et combien de temps il faut pour ne pas être malade avec...
Alors, malade,
comment on les conserve qu'est-ce qui est mieux
Alors, un œuf, donc légalement, c'est 28 jours à partir du jour de ponte. C'est la DCR, c'est donc la date de consommation recommandée par la DDCSPP. Par contre, vous devez les manger sous 9 jours à la coque, donc à partir du jour de ponte toujours. Ensuite, si vous dépassez de quelques jours, vous n'allez pas être malade. Ce qu'il faut vérifier, c'est que l'œuf ne soit pas cassé. C'est le plus important. D'où le changement de poule, parce qu'après, mes vieilles poules font des coquilles un petit peu moins solides. Et moi, en manipulant les œufs, je suis obligée d'avoir des œufs solides. Quoi. Et voilà.
Et, Et qu'est-ce qu'il faut pour avoir des bons œufs, des bonnes poules pondeuses? Est-ce que c'est la nourriture que vous leur apportez est importante?
Très, je pense. Moi, je travaille avec une coopérative pas loin de chez moi, avec une technicienne qui est super, qui peut me conseiller vraiment sur les recettes qu'elle me fait vraiment personnaliser en fonction de ce que je lui demande, si j'ai des jeunes poules. Alors c'est assez simple, hein, ça reste des céréales et un petit peu d'apport de calcium quand elles vieillissent, justement toujours pour cette coquille. Ce qui fait un bon œuf, je pense, c'est la personne qui élève les poules. Faut être zen, je pense, faut aimer les animaux, faut être avec elles aussi, c'est pas que vendre, il y a aussi le contact. C'est une poule, certes, mais elles savent qui est leur éleveur, il n'y a pas de souci. Et puis un extérieur, un grand extérieur en essayant de varier les parcs. Si on peut faire tourner et qu'elle ait toujours de l'herbe dans les parcs, c'est l'idéal. Bon, là, on a un peu la grippe aviaire qui nous demande de confiner les poules. Mais
En ce moment,
toutes les années, de novembre à mars, ils demandent de confiner les poules. Alors moi, et je suppose beaucoup de petits éleveurs comme moi, peuvent demander une dérogation et sortir les poules sur des parcours un peu plus réduits, ce que je fais.
Et juste pour info aussi, par rapport à la salmonellose. Il est recommandé de toujours passer les œufs sous l'eau quand on va les consommer crus ou non?
Ah, surtout ne jamais faire ça, s'il vous plaît.
Ah, jamais?
Jamais.
Ah bon? Moi, je croyais qu'il fallait...
Non, vraiment, c'est le pire risque. C'est... La coquille de l'œuf est très, très bien faite naturellement pour protéger tous les intrants possibles, justement. Si vous lavez l'œuf, vous enlevez la porosité de la coquille et vous permettez du coup à toutes les bactéries d'entrer dans l'œuf directement. Pas besoin de mettre les œufs au frigo parce que c'est vraiment très bien fait. Le tout, c'est d'éviter les variations de température. Quand vous mettez l'œuf dans la porte de votre frigo, là où souvent il y a l'emplacement d'ailleurs pour cela, et ben en fait vous ouvrez la porte du frigo, vous la fermez et il change de température et c'est ce qu'il faut éviter. Non.
Oui, en général, on n'est pas obligé de mettre les œufs au frigo.
Non.
C'est même pas forcément.
Est-ce que vous les voyez dans les magasins ou dans les grandes surfaces au frigo?
Ah oui, c'est vrai.
Ils n'y sont pas. Hein. Non.
Bien. Eh ben, merci pour ces informations.
Merci. Avec plaisir.
Alors, on va en venir à ce magasin de producteurs, de savoir comment, où est-ce que vous en êtes et comment est venue cette idée de créer un magasin de producteurs.
Alors, je m'y mets, je me lance. Donc, pour faire le petit historique, il y a un an, un agriculteur du coin, qui fait partie de notre collectif, est allé voir la Chambre d'agriculture parce qu'il avait une forte envie de créer un magasin de producteurs. Et il est allé voir la Chambre demandant si on pouvait lui donner un coup de main pour réunir assez d'agriculteurs pour ce projet. Ce qui s'est passé, du coup, une personne de la Chambre d'agriculture a envoyé un mail groupé à beaucoup d'agriculteurs des Alpes-de-Haute-Provence pour savoir si ça nous intéressait. Et là, à partir d'octobre 2024, on a commencé à se réunir pour commencer à en parler et dégrossir. Ça a duré, on a fait beaucoup d'échanges d'idées. Ça a duré jusqu'au mois d'avril 2024, si je ne me trompe pas, avril-mai, où nous avons décidé de créer une association de préfiguration. C'est-à-dire, c'est une association qui permet de mettre en place le magasin avant que ça se transforme en société ou autre. On ne savait pas encore. Et du coup, dans cette association, nous avons créé un CA et on s'est retrouvés à 9 à travailler vraiment sur le gros du projet, puisqu'on s'est rendu compte qu'être à un plus petit groupe permettait d'avancer un peu mieux, sachant qu'on tenait au courant absolument les autres de tout ce qui se passait. Les autres pouvaient nous aider à donner des conseils. Hein, voilà. Mais on s'est retrouvés vraiment avec ce petit groupe pour parler de ça et travailler durement là-dessus. Est arrivé l'été où nous avons trouvé un magnifique local qui se trouve à la zone Saint-Christophe. On va vous expliquer pourquoi on a souhaité avoir un local dans la zone. Et qui s'appelle, c'est le local qui va être anciennement Granules Alpes. Donc c'est un local qui se trouve derrière Boulanger, en face de la boîte à biscuits à peu près, Général d'Optique. Voilà. C'est un très beau local de 170 mètres carrés à peu près, avec une énorme réserve, des bureaux, enfin voilà, tout ce qui va nous permettre de travailler le plus magnifiquement possible. On va y revenir. Donc je digresse un peu. Pourquoi ça, c'était une grande décision collective de choisir la zone Saint-Christophe pour implanter notre magasin? Parce que beaucoup d'entre nous sommes sur le marché de Digne Et nous avons déjà notre clientèle au marché. Et on s'était rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui, travaillant à la zone, ne peuvent pas aller au marché, n'ont pas le temps, ou viennent d'en bas, hein, pas forcément sur Digne, et qui n'ont pas le temps de monter jusqu'au centre-ville, ne peuvent pas se garer, etc. Du coup, on s'est dit, ben, rendons nos produits accessibles à la zone. Et donc, ce sera pour les locaux, mais ce sera aussi pour les touristes qui passent par là. Voilà, enfin, ce sera ouvert à tous. Et on a cet emplacement qui est très visible, et c'est vraiment quelque chose de super pour nous. Donc voilà, on en est arrivé là. Donc le local a été trouvé. Ensuite, avec la chambre, on s'est dit, ben, nous allons monter un projet de financement FEADER. Ce financement, c'est le financement de l'Europe qui nous permet, qui était vraiment basé sur la création de magasins, de producteurs. Hein, c'était vraiment un FEADER destiné à ça, pardon. Et du coup, nous avons commencé à monter les dossiers, aidés par la chambre. La chambre d'agriculture est même en chef de file sur ce projet. Donc c'est elle qui nous a beaucoup soutenus et aidés. Et donc, nous avons regroupé les devis qu'il fallait, fait les cahiers des charges, tout ce qu'il fallait pour pouvoir aboutir à cette demande de FEADER. Nous l'avons déposée au mois d'octobre 2025. Oui, voilà, octobre 2025.
Il y a très peu de temps, donc.
Il y a très peu de temps. Et nous attendons une réponse de savoir s'il va être accepté. Hein. Nous avons bientôt, nous allons nous réunir pour ça. Mais en attendant, si ce FEADER est accepté, nous en toucherons une première partie en octobre 2026 et la fin en octobre 2027. Donc voilà, ça c'est vraiment, cette chose est montée, mais pour l'instant on n'a pas encore cet argent. C'est vraiment une aide qui nous arrivera après. Donc c'est pour ça que pour créer ça, nous allons devoir prendre un emprunt bancaire, faire des apports personnels. Voilà, pour cette chose-là. Ensuite, pour finir un peu là-dessus, je pars un peu dans tous les sens, excusez-moi. Là maintenant, nous nous sommes réunis, nous sommes en train de créer une société. Donc les autres agriculteurs, 24 pour l'instant, hein, 24 exploitations, se sont réunis encore et nous avons agrandi le groupe de travail à une quinzaine de personnes, gros groupe, tout en échangeant en permanence avec les autres membres. Voilà. Et nous sommes en train de créer une société pour l'ouverture de ce magasin. Est-ce que Julie, tu veux prendre le relais pour...
Oui, je pense que tu as déjà dit pas mal de choses. Dans ce magasin, ce qu'on peut dire, c'est qu'on trouvera des produits issus de l'agriculture biologique et conventionnelle, et surtout locale. Ce sera un magasin de producteurs, donc ce nom, c'est vraiment quelque chose d'important. Parce que magasin de producteurs, pas tous les magasins peuvent le porter. Notamment pour le financement FEADER, nous sommes vraiment tenus de faire un magasin de producteurs, ce qui veut dire qu'il va être tenu par des producteurs, pour des producteurs. Et pour des clients, évidemment, mais ce qui permettra d'avoir des prix raisonnables. On va essayer de faire un peu quelque chose comme au marché. Évidemment, on aura une petite masse salariale, on aura des assurances, un magasin, du chauffage pour le confort à payer, donc on aura un tout petit pourcentage un peu plus élevé qu'au marché, mais vraiment le but c'est de se retrouver comme au marché. Voilà, ce sera les producteurs qui feront des permanences, donc il y aura toujours un producteur dans le magasin. Si vous avez des demandes, si vous voulez questionner sur un produit, tous les producteurs seront au courant de tous les produits qui seront vendus dans ce magasin. Et ces produits-là seront vraiment soumis à une charte éthique. Qu'on est en train de construire avec tout ce regroupement de producteurs pour que tout le monde ait la même vision des choses. Voilà, tout ça prend du temps, mais ce sera une éthique que tout le monde aura.
Est-ce que vous avez une idée de, j'imagine, du local, la superficie du local ?
Oui, alors voilà, comme on vous disait, on va avoir un local de 170 mètres carrés. Rien que pour la surface de vente. Voilà. Et on tient vraiment à préciser qu'il n'existe pas d'espace de ce type sur le territoire, hein, encore. Vraiment, il y a beaucoup de magasins, de vente de produits locaux magnifiques qui font de très beaux produits, attention. Mais là, c'est vraiment un magasin fourni par les agriculteurs du coin et tenu par les agriculteurs. Il y aura certes, comme disait Julie, des employés, puisqu'on ne pourra pas... Il faut du monde pour tenir un magasin, mais il y a minimum un agriculteur, comme vous a bien dit Julie, présent sur place.
Mais vous dites que ça n'existe pas sur Digne, mais ça existe à Manosque.
Ça existe, voilà, d'autres ailleurs. Endroits. Ça n'existe pas sur le territoire dinois, d'accord. Sur le bassin dinois. Voilà, exactement.
Et donc, ça, c'est important de tout grouper. Et les heures d'ouverture, ce sera comme un magasin classique ?
Oui, on voulait des belles amplitudes horaires, hein, du lundi au samedi, ouvert non-stop, je pense. Ce qu'on avait dit à peu près, de 9h à 19h, quelque chose comme ça. Normalement, on est sur ces amplitudes-là.
Oui,
hein,
tout à fait. On veut vraiment que la personne qui finit tard du travail puisse venir faire ses petites courses de dernière minute. Entre midi et deux, parfois, c'est agréable aussi. Et voilà, ce sera...
Donc, c'est du bénévolat pour les permanences d'agriculteurs chaque jour différents.
C'est ça.
Ça fait partie de la charte.
D'accord.
Il est là, il peut vendre ses produits-là, mais il est aussi là pour donner de son temps au magasin.
C'est finalement un outil pour les agriculteurs.
Exactement.
On veut vraiment que ce soit un outil pour tous les paysans du bassin diennois. Et on voudrait que les futurs installés puissent en profiter aussi. C'est quelque chose qu'on espère de pérenne.
Est-ce que vous, ça ne vous donnera pas envie de quitter les marchés ?
Non, sûrement pas.
Voilà,
marché,
moi non plus.
Non. C'est trop important, mes clients.
C'est important, c'est convivial. C'est
Oui. Ce sera un plus.
Ouais.
Voilà. Mais...
Et on ne va pas lâcher nos clients du marché. Ce ne sera pas les mêmes. Pas forcément. Il y en aura certains, bien sûr, mais pas forcément les mêmes. Et on va pas. On est là. On restera fidèles à nos clients, qu'ils sont fidèles à nous depuis des années. Donc, ouais.
Le but, c'est de complémenter le marché de Digne-les-Bains.
Vous êtes au marché de Digne deux jours par semaine ou une fois ? Oui, le mercredi et le samedi. Donc.
Voilà, moi aussi, deux jours.
D'accord. Et ça, depuis le début de votre exploitation ?
Tout à fait.
Oui.
Et est-ce que... Donc, c'est un moment que vous aimez, malgré les intempéries. Comment on s'habitue à ce mode de vie quand même bien particulier ? Parce que c'est du travail. Enfin, moi, j'ai ma fille qui est aussi maraîchère à Vinon-sur-Verdon. Et je vois bien le boulot incessant que c'est, quoi. C'est ce que ça représente de charger les caisses...
Alors, effectivement, c'est du travail, mais pour voir dans l'autre sens, la vente directe, pouvoir aller sur le marché, vendre ses légumes sans intermédiaire à des gens qui les apprécient et qui ont un échange, déjà, ça console de toutes les intempéries. Alors, effectivement, faire un marché l'été, c'est bien plus agréable que faire un marché au cœur de l'hiver, hein, on s'en cache pas. Mais après, on s'équipe, c'est notre travail. C'est-à-dire que, par exemple, les légumes, ça craint énormément le gel. Donc, du coup, on est obligé de monter autour de nos parasols des espèces de tentes avec des bâches plastiques, on met un chauffage au gaz derrière. On met des couvertures sur les légumes, on est obligé vraiment de se calfeutrer. C'est toute une organisation, tout se réfléchit en amont, mais c'est notre travail. On a la chance de pouvoir vendre nos produits au prix juste, au circuit court à nos clients, du coup, ça peut bien demander un petit effort.
Et je pense que les clients et clientes vous sont reconnaissants de...
Complètement,
sont
tous les jours
solidaires,
de pluie.
Sont solidaires.
Complètement, les jours de pluie, vous ne vous rendez pas compte, le nombre de personnes qui viennent avec parapluie et cap et tout ce que vous voulez, et qui sont là fidèles à acheter leurs légumes, leurs pains, leurs œufs. Je vous garantis que oui, on peut bien faire l'effort d'être là.
Oui, puis ça nous sort de nos fermes, mine de rien. Le contact n'est pas désagréable, deux fois par semaine. C'est quand même... Et puis c'est l'aboutissement de notre travail, presque, je dirais. Vendre nos produits.
Donc, on va revenir à la cagnotte. Cagnotte qui s'appelle Mimosa.
Oui,
alors, quelle est cette plateforme et qu'est-ce qu'il faut faire
Voilà, déjà, on vous explique pourquoi on a mis en place Mimosa, tout le collectif. C'est parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous allons avoir beaucoup d'apports personnels, un emprunt bancaire, etc. Du coup, nous nous sommes dit que nous pouvions peut-être demander aux citoyens, à nos clients, futurs clients ou autres personnes, de, s'ils le souhaitaient et s'ils le pouvaient, bien entendu, nous soutenir sur ce projet. Donc, nous avons créé cette cagnotte au début mi-octobre. Cagnotte donc, qui se trouve sur le site Mimosa, la plateforme Mimosa. Ça s'écrit Mimosa. Donc mimosa.com. Une fois que vous allez sur ce site, vous tapez magasin de producteurs. On a réessayé, franchement, on est en tête. Hein. Vous nous trouvez, il y a notre photo, c'est marqué magasin de producteurs à Digne,
oui.
Il me semble. Voilà. Du coup, vous pouvez rentrer sur cette plateforme et faire un don. Le montant que vous souhaitez, il y a certains dons avec contrepartie, ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez faire un petit soutien au magasin pour les premiers apports du magasin. Vous pouvez également nous trouver sur notre page Facebook. Nous avons créé une page Facebook qui s'appelle Magasin de producteurs du pays dinois. Et vous avez tous les liens pour la plateforme Mimosa sur cette page Facebook. Et vraiment, tous ces dons, petits, grands, sont là pour nous donner un petit coup de main pour le démarrage. Et on remercie énormément les gens qui les ont déjà fait, qui en ont déjà fait.
Il y a aussi, sur le marché, on a mis en place une petite boîte à dons pour ceux qui ne veulent pas passer par cette plateforme. C'est une petite fiche que vous remplirez avec nous. Et c'est exactement pareil que Mimosa, sans passer par Mimosa. Et pour ceux qui n'ont pas Internet ou qui ne connaissent pas trop cette plateforme-là.
Donc, on vous fait un chèque ou quoi ?
Un chèque, espèces. Mmh. Nous, on vous donne une fiche et avec contrepartie ou non, comme vous le désirez. Voilà, il faut venir nous voir sur le marché. Donc, soit Camille, soit moi, Julie, les œufs.
Donc, ça, c'est fait pour jusqu'à fin décembre pour participer.
Complètement.
Et après, ça ne peut pas se remettre en route puisque vous espériez quoi, 18 000 euros ?
Alors oui, là, on était sur le premier palier à 18 000 euros. Donc effectivement, là, nous en sommes à 16 000 euros pour l'instant. Et effectivement, si on arrive à monter à 18 000 euros, c'est merveilleux, même au-delà. À la base, nous espérions, nous avions mis un sommet à 80 000 euros, voire plus. On a mis ce chiffre-là en se disant bah, tout ce qui est pris est bon à prendre hein, et ça nous aidera. Mais là, donc, arriver déjà en 18 000, 20 000 euros, c'est déjà énorme pour nous donner ce coup de main pour l'ouverture.
Alors ça va vous permettre de financer quoi ?
Alors au début...
Parce qu'il y a une location pour le magasin.
Alors tout à fait, oui. Le magasin a un coût de location. Il y a un coût aussi pour l'agent immobilier, pour... Tout ce qui est coût d'ouverture classique d'un magasin, donc de payer déjà les premières choses. Ça nous permettra aussi l'apport pour l'avance pour le crédit. Voilà, c'est ça. Hein. Mmh. On amène tous un peu des fonds personnels. Du coup, ça peut couvrir aussi ça.
Nous, oui, voilà. On est vraiment au départ d'un projet quand même conséquent et on a besoin d'aller devant les banques avec un capital pas non plus... comment dire, un peu conséquent quand même pour se présenter, même si la chambre nous suit, donc on est déjà quand même bien
assurés. Est-ce que l'idée, c'est d'acheter ou c'est de...
Non, là, non. C'est de louer pour le moment, louer. Vraiment, voilà, de la location. Mais la propriétaire, qu'on remercie d'ailleurs, est vraiment, je pense, très enjouée du projet. Donc, merci à elle aussi de patienter. Et voilà, donc Mimosa nous servira quand même beaucoup aussi comme apport, premier apport personnel.
Exactement, ouais, c'est le but.
Et on est là quasi déjà, je dirais, presque la moitié de ce qu'il nous faut pour se présenter aux banques. Donc c'est déjà super.
Donc l'ouverture prévue au mois d'avril 2026.
Tout à fait. Normalement, début avril 2026. Hein.
D'accord.
si tout va bien, mais c'est avril 2026. Voilà, tout est mis en œuvre pour, puisque nous récupérons le local début février. Donc
il y a un enthousiasme de la part de tous les maraîchers, agriculteurs,
tous, voilà,
on apiculteurs. A vraiment beaucoup... Qu'est-ce qu'on va trouver comme produit alors ? Parce que vous êtes 24, ça fait beaucoup de
Ça fait énormément de choses. De et on n'a pas encore tout ce qu'il nous faut. On a déjà réuni aussi des demandes de futurs nouveaux agriculteurs qui se joindront à nous. Donc pour l'instant, dans les 24, nous avons effectivement des légumes, des fruits d'été, du pain, de l'huile d'olive, des œufs. Des fromages de toutes les sortes, vaches, brebis, chèvres. Nous avons de la viande d'agneau, de la viande de porc. Nous avons de la viande de canard et tout ce qui est canard transformé. Du miel, hein, beaucoup de variétés de miel. Des produits transformés à base de miel, nougat, bougie, enfin plein de choses alimentaires ou non. Nous avons des huiles essentielles, des cosmétiques, des savons, tout ça, etc. De la bière, du cidre. Nous avons plein de sortes de jus de fruits, du safran, des tisanes. Et qu'il nous manque ? Je pense que j'ai fait un peu le tour.
Hein. Fait le tour.
Ouais, voilà, de ce que nous avons pour l'instant. Moment. Mais après, nous allons faire en sorte d'avoir absolument toutes les gammes de produits possibles en agriculture locale.
Ok, on va peut-être faire une pause musicale pour pouvoir dire au revoir à notre stagiaire. Et puis on se retrouve juste après. Donc je vous propose d'écouter Super Tramp que vous avez choisi toutes les deux. Et c'est parti. There's not a lot I can do. Voilà, après cette pause musicale de Supertramp, Breakfast in America, eh bien, on reprend avec Julie Mazan, éleveuse de poules pondeuses, et Camille Mourgue, maraîchère au plan de Gobert. On en était donc à tout ce qu'on peut trouver dans cette future boutique qui ouvrira donc... en principe, le 1er avril, et c'est pas un poisson, ça va se faire.
Oui, alors,
est-ce qu'il y a besoin de faire des travaux dans le...
Oui, ça fait partie de ces fameux devis que nous avons réalisés pour le financement FEADER. C'est une petite base de travaux. Hein. Le local est déjà vraiment très propre, mais c'est pour le mettre à notre goût sur certaines choses. Et surtout, ben, ça va être l'aménagement, le mobilier. Alors là, voilà, c'est quelque chose de très important. Nous allons travailler un maximum avec des entreprises locales. Donc voilà, par exemple, l'ameublement est fait à Fort-Calquier. Par les artisans du bois, par exemple. Les travaux sont faits par un artisan d'ici également.
Oui, c'est ça. Il fera l'électricité, les travaux. On va vraiment essayer de faire marcher les entreprises du coin, effectivement, qui ont vraiment été très réactifs pour les devis, parce que ça a été quand même...
La course,
voilà. Il fallait vite rendre le dossier. Ça se terminait... Enfin, quand on a su qu'il y avait ce financement, on avait un délai assez court derrière pour demander les devis. Et toutes les entreprises ont été super réactives. On les remercie vraiment.
Elles nous ont beaucoup aidé. Pour les travaux, je tiens vraiment beaucoup à remercier la personne qui va nous suivre, parce qu'elle a été là vraiment pour m'aider vraiment à construire un cahier des charges pour les travaux. Donc c'était vraiment formidable.
Parce qu'il faut savoir qu'on est novices dans tout ça. Hein. Nous, on est paysans. Et là, on découvre le monde de l'entrepreneuriat, mais pas agricole. Et c'est quelque chose. Mais c'est très intéressant.
Oui.
Alors moi, j'ai envie de revenir sur un détail, certainement, aujourd'hui, mais les paniers qui étaient mis avec la MAP, qui étaient mis en place il y a quelques années déjà, est-ce que ça s'est arrêté, ça, avec les maraîchers?
Pas du tout, la MAP existe toujours, oui. Hein, il y a plusieurs... Oui. Non, c'est fourni par un agriculteur, si je ne me trompe pas, de Volks, hein, je crois, et qui fournit des légumes pour la MAP, donc elle est en fonctionnement. On n'a pas suivi plus que ça, je ne sais pas, mais je sais qu'elle fonctionne, oui.
En tout cas, les circuits courts, c'est quand même de plus en plus important à l'époque où on vit, où il faut lutter contre la pollution, éviter de faire venir des légumes par avion, des légumes ou des fruits.
Ouais. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, vraiment, le circuit court et ce magasin, mais le marché également, c'est vraiment un engagement fort. Là, on parle vraiment du magasin. C'est vraiment de défendre une agriculture locale et une meilleure rémunération, je me trompe dans mes lettres, pour les producteurs. Et puis, c'est vraiment un lien direct avec le consommateur. Mais c'est vraiment un outil au service des fermes, hein, ces circuits courts, que ce soit magasin ou marché ou panier, etc. Et ça permet vraiment de reprendre du pouvoir d'achat pour le consommateur, et puis une maîtrise de la valeur ajoutée pour le producteur. Ça, c'est vraiment très important.
Du pouvoir pour des petites fermes aussi. Ouais. Nous, vraiment, c'est ce qu'on qu'on soutient, c'est pas une grosse ferme, mais plein de petites fermes. Mais ces petites fermes auront besoin de lieux comme ça aussi pour vendre et valoriser leurs produits. Sur le marché, parfois, on manque un peu de place. Il y a beaucoup de producteurs, finalement, autour de Digne-les-Bains qui ne sont pas tous sur le marché et qui aimeraient vendre leurs produits sur Digne. J'espère que ce magasin leur permettra aussi un visuel. Voilà, c'est quelque chose vraiment fait pour les agriculteurs.
Exactement, et continuer cette chose qu'on fait déjà sur le marché, c'est vraiment cette vente directe qui crée une relation avec le client. Et puis ça permet vraiment aux petites exploitations d'être indépendantes et de mieux s'en sortir économiquement.
Parce que vous personnellement, vous venez deux fois par semaine sur les marchés de Digne, et sinon, est-ce que les gens peuvent venir sur votre exploitation ou pas?
Alors, moi, pour les légumes, personnellement, on avait fait effectivement que l'été une vente à la ferme le mardi soir avant le marché du mercredi où tout était ramassé. Et ça permettait à nos voisins de venir un peu se servir, mais ça va dépendre des années. Si on n'a pas trop à vendre, du coup, on va l'arrêter l'année dernière, on ne l'a pas faite, par exemple. Voilà. Ça va dépendre vraiment de ce qu'on peut proposer. Du coup, ce sera le magasin qui prendra une partie. On va consacrer une partie de nos récoltes pour le magasin, mais le marché sera toujours très bien achalandé.
Pour ma part, je fais très peu de ventes à la ferme. C'est vraiment pour les voisins autour de chez moi. Mais j'ai un petit abri qui permet de déposer mes œufs dedans et de ne pas être là au moment où ils viennent. Parce que en termes d'organisation, j'ai une petite fille de 9 mois. C'est un peu compliqué. Du coup, je préfère vendre sur les marchés et dans ce magasin futurement, regrouper donc mes ventes sur des temps vraiment restreints, plutôt que d'être tout le temps à la merci de quelqu'un qui pourrait arriver sur la ferme. Et en plus, souvent, on a envie de leur faire visiter, donc ça prend beaucoup de temps, tant qu'on n'a pas forcément. Donc non, ce sera plutôt sur les points de vente.
On parle beaucoup des œufs en ce moment, des pénuries d'œufs, parce que les gens en consomment de plus en plus et de moins en moins de viande ou de poisson. Est-ce que c'est votre cas aussi? Il faut vraiment arriver en début de marché? Il faut les réserver? Comment ça se passe?
C'est un peu ça. Là, oui, j'ai souvent à 11h30, j'ai plus d'œufs. Alors en ce moment, avec les deux lots que j'ai de poules, les jeunes et les vieilles, j'ai pallié à ça. Mais c'est vrai que les gens, je le remarque, consomment plus d'œufs. Même si je suis installée depuis finalement que presque 4 ans, ça a augmenté. Les personnes ne viennent plus pour une boîte de 6 œufs, mais elles prennent un plateau de 30. Quoi. Alors ce qui est super, parce que ça signifie que je pense qu'ils cuisinent aussi plus. Et aussi effectivement, peut-être les bourses sont un peu moins grandes et on prend un petit peu moins de viande ou un peu moins souvent. Ou c'est aussi pour éviter l'impact carbone.
Est-ce qu'on a fait le tour ou est-ce qu'il manque des informations essentielles?
Je crois qu'on a fait un bon tour. C'est vraiment, si vous pouvez nous aider sur ce financement participatif Mimosa, ça fera que avancer les choses un peu, peut-être plus vite. Et on espère vraiment vous retrouver en avril pour l'ouverture du magasin. On essaiera de faire sûrement une inauguration. Plein d'événements sont dans nos têtes déjà, mais voilà. On vous remercie d'avance.
Tout à fait. Et on vous remercie pour votre aide. Et on remercie aussi Provence-Alpes-Agglo et le département de leur soutien pour ce projet. La Chambre d'agriculture, bien entendu.
Ah, ça, c'est important. Il ne faut jamais oublier de remercier les gens qui vous aident.
Merci aussi. Nous aident.
Nathan Boiron de la Chambre
qui
est vraiment...
Chambre et qui est vraiment un pilier.
Exactement. C'est notre accompagnant qui va continuer à nous accompagner après l'ouverture du magasin et on a beaucoup de chance.
Eh bien, je vous remercie toutes les deux d'être venues donc, dans notre studio pour nous parler de ce beau projet qui va se réaliser très vite, donc le 1er avril 2026, où on pourra vous retrouver ces 24 produits de producteurs locaux, de producteurs...
Donc c'est plus que 24.
Magasin de producteurs plus que 24.
On aura beaucoup plus. Là, c'est vraiment ceux qui sont là maintenant. Mais après, nous allons retrouver tout ce qui nous manque encore. Et du coup, on sera beaucoup plus d'agriculteurs à fournir ce magasin.
Oui. Alors,
Moyenne, c'est des 40... Dans les magasins existants, c'est presque une quarantaine de voire plus, ouais, qui fournissent...
Il va falloir pousser les murs après, alors.
Oh, ils sont déjà grands. C'est pour ça qu'on a ce local-là.
D'accord. Eh bien, merci Julie Mazan et Camille Mourgue.
Merci
et puis,
à vous.
On félicite d'avance tous ceux qui se sont groupés pour ce beau projet et puis tous ceux qui vous donnent les moyens aussi d'aller au bout de ce projet et pour favoriser les circuits courts, comme c'est très important, de plus en plus important. Merci, bonne journée.
Merci.
Et puis on va mettre Save Me de Aretha Franklin. Au revoir.